Bonsoir et bon début de semaine à tous, 24 avril 90, 24 avril 2011, 21 ans après le lancement de la démocratie en RDC, quel bilan dressé sur le plan du multipartisme, des droits de l'homme et de la participation du peuple à la gestion de la chose publique. C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce soir et pour en parler, je reçois dans cette émission Bob Kabamba, il est professeur à l'Université de Liège en Belgique, il est en ligne. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Oui, bonsoir à vous.
Abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique du Congo, il est avec moi dans ce studio. Bonsoir Abbé Richard Mugaruka.
Bonsoir.
Et Maître Patrick Joseph Lendo, analyste politique, également avec moi dans ce studio. Maître Patrick, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Emile Abassembe de Mbandaka à l'Équateur. Le bilan adressé des 21 ans du lancement de la démocratie en RDC est à moitié positif, car le pluralisme politique et la participation de tous citoyens à la gestion de la chose publique sont reconnus par la Constitution en RDC. Concernant le droit de l'homme, le bilan est négatif car aucune amélioration ni changement sur toute l'étendue du pays. Victoire de Lubumbashi au Katanga, la démocratisation étant un processus, il y a lieu d'admettre qu'il y a tout de même des petites avancées, même si beaucoup des fois et souvent d'ailleurs, le pays revient à la case de départ avec un retour aux pratiques déjà vécues et décriées. Le multipartisme tout de même existant, même si plus de 90% des partis politiques sont alimentaires, sans aucun projet de société, ne visant que des postes de responsabilité pour des intérêts personnels. Merci de nous suivre à Denis dans la province du Nord-Kivu sur la 92.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 809 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Le 24 avril 2011, cela fait 21 ans depuis que le feu maréchal Mobutu a annoncé l'ouverture au multipartisme et la démocratisation du pays, une démocratisation qui devait aboutir aux élections des députés et du président de la République en août 1994, selon le chronogramme adopté par la Conférence nationale souveraine. Mais hélas, ce processus de démocratisation va engendrer une transition de 16 ans émaillée par des conflictualités. Innocent Linga nous en dit plus.
Avec la fin du parti État, les hommes politiques se hâtent pour créer ou recréer leur propre parti politique. Mais le régime doit convoquer la Conférence nationale souveraine pour discuter de la marche du pays. Les acquis de cette conférence ne seront pas appliqués, ce qui complique par exemple l'organisation des élections législatives présidentielles d'août 1994. 6 ans de débats constitutionnels stériles, de querelles et de frustrations débouchent sur la rébellion dans l'Est. Laurent Désiré Kabila est à la tête du pays. Il dissout les institutions et dirige à la faveur d'un décret-loi constitutionnel reconnaissant les droits d'exercer seuls les pouvoirs exécutifs et législatifs. Une année après, les pays replongent dans la guerre civile avec des multiples rébellions. Le dialogue intercongolais qui intervient en 2002 coupe court aux ambitions des uns des autres et préconise l'organisation des élections libres et démocratiques en 2006, précédée d'une transition de partage du pouvoir dans une formule 1 plus 4. Et ce sont ces élections de 2006 qui ont mis fin à la crise de légitimité du pouvoir.
Merci, Monsieur Olinga. 3 aspects sur lesquels notre débat de ce soir va porter. Le bilan adressé sur le plan du multipartisme, de droits de l'homme et de la participation du peuple à la gestion de la chose publique. Commençons par le bilan du multipartisme 21 ans après. Professeur Bob Kabamba, quel bilan vous dressez du multipartisme 21 ans après?
Je vous remercie beaucoup pour cette émission consacrée justement à un thème essentiel qui concerne l'avenir de la RDC, non seulement de la RDC, mais aussi de manière générale de l'Afrique entière. Vous savez, lorsqu'on parle de démocratie, lorsqu'on parle effectivement de la transition, Il faut bien se remettre dans les contextes des années 90, fin des années 80, début des années 90, hein, où l'on parle effectivement au moment où on parle de le vent venu de l'Est avec l'affaire Stroïka en Russie, en URSS plutôt précisément, qui a balayé la plupart des États communistes en Europe de l'Est et puis qui va toucher l'Afrique. Et l'Afrique avec les revendications qui vont se canaliser dans deux axes, essentiellement tournées vers d'une part ce qu'on va appeler la décomposition autoritaire, c'est-à-dire régimes dictatoriaux qui vont essayer de faire en sorte de gagner des élections rapidement pour se mouvoir en dictateur pour se changer en démocratie. D'autres qui vont essayer de pouvoir adopter pour une voie qu'on va appeler la conférence nationale. Alors cette deuxième voie a été essentielle dans les pays francophones et de cette base de cette on voit de la conférence nationale que la RDC anciennement Zaïre qui va être la voie qui va être choisie par le Marcel Mobutu, et non seulement par le Marcel Mobutu, mais aussi par la plupart des forces politiques de l'époque. Et puis, il faut bien se rendre compte dès le départ que la participation à cette conférence nationale après l'ouverture sera uniquement basée sur deux concepts, uniquement d'une part les représentants des partis politiques, du politique en général, et d'autre part la société civile. Et lorsqu'on en parle du parti politique, alors pour pouvoir exister, pour pouvoir essayer de perdurer dans le contexte politique congolais, il est impératif de pouvoir être soit créé son bon parti, soit faire partie de l'opposition, soit faire partie de la mouvance pour une présidentielle. Or, cette dynamique-là, qui va naître dans le début des années 90, va rester, en disant de manière très claire, pour pouvoir exister au niveau politique à RDC, anciennement Zaïre, il est indispensable de pouvoir créer son parti, qui peut le créer avec sa femme, ou ses frères, ou avec ses cousins, etc. Mais l'essentiel d'avoir un parti politique qui va non seulement compter au niveau de la conférence nationale souveraine, mais aussi après, avec la transition, souvenez-vous, donc, au moment où on va commencer les négociations de l'Ukraine, la prolifération des partis politiques qui vont aussi aller y participer, et ensuite, après, en 2006, avec la création des partis politiques pour exister et se présenter aux élections, et même maintenant, lorsqu'on regarde les chiffres de manière très claire, on vous avez annoncé en 1990 qu'il faisait une démocratisation accroître, après de pouvoir après libérer en ce qui est l'espace politique congolais. On a eu plus de quarantaine de partis qui ont été créés. Ensuite, si je prends les chiffres de manière très claire, on se rend compte que par rapport à une quarantaine de partis qui ont été créés en 1990, en 2006, on est à 267 partis qui se sont présentés aux élections de 2006. Et actuellement, si je lis bien la presse, je suis bien rendu au papier, vous nous avez annoncé que le ministre de l'Intérieur a diffusé qu'il y avait actuellement 383 partis politiques reconnus en RDC. Et de manière très claire, on se rend bien compte que la prolifération, je pourrais prendre votre question de manière très précise, la prolifération des partis politiques qui a commencé depuis 1990 pour le premier, c'est la période de la transition, cette prolifération ne s'est pas arrêtée, et que du contraire, elle ne peut continuer, parce que tout simplement la plupart des politiciens congolais pensent que pour pouvoir exister, pour pouvoir être au niveau compté, au niveau politique, il faut créer son propre parti.
Merci, professeur Bob Kababa. Abbé Richard Mougarou, quand vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo, quel bilan vous vous dressez du multipartisme en RDC? Le multipartisme se porte bien le président Mobutu avait proposé un multipartisme à trois partis. Aujourd'hui, on a plus de 200 partis politiques en RDC. On peut dire qu'il se porte bien.
Merci pour la question. Justement, le nombre exorbitant de partis politiques est plutôt un signe négatif par rapport à justement le rôle que doit jouer un parti politique en démocratie. La plupart des partis politiques qui existent dans notre pays sont des coquilles vides. Un parti politique se définit d'abord par un projet de société autour duquel se regroupe, se rassemble des citoyens. Et s'ils cherchent à conquérir le pouvoir, c'est pour pouvoir justement mettre en œuvre, en pratique, ce projet de société. Or, la plupart de nos partis politiques n'ont pas de projet de société. Et s'ils en ont un, c'est un projet de société qui a été copié avec beaucoup de mots anisme et anisme que personne ne comprend. Or, sans projet de société, le parti politique n'a donc pas d'existence, n'a pas de fondement. Et s'il n'y a pas de projet politique, évidemment, il ne peut pas avoir de débat. La plupart de nos partis politiques n'ont aucun débat politique parce que justement, ils n'ont pas de projet de société autour duquel on pourrait discuter. Pire, et c'est le troisième déficit, la plupart de ces partis sont véritablement dictatoriaux. Il n'y a que le chef du parti qui a un mot à dire et qui impose ses idées à tout le monde. En conséquence, ce sont des partis qui, au lieu justement de former, d'éduquer la démocratie, ce sont des partis qui, justement, nient la démocratie, qui ne permettent pas la liberté d'expression et le débat autour des opinions. Enfin, il faut souligner que beaucoup de ces partis sont des coquilles vides par rapport à ceux qui les composent. C'est-à-dire que sur les 383 partis politiques existants actuellement, il n'y en a pas 10 qui ont plus de 100 membres. Il n'y en a pas 10. Ça signifie que ce sont des partis qui sont créés uniquement en vue de la conquête du pouvoir. Ce sont des partis que j'appelle coquilles vides, mallettes. Et chaque fois qu'il s'agit de se partager le pouvoir, les chefs de ces partis inexistants qui n'ont pas pignon sur eux se précipitent pour dans les officines où se décide ce partage du pouvoir. N'oubliez pas que ici, le drame, c'est que dans nos pays, la seule fonction qui peut permettre à son homme de vivre, la seule fonction qui peut donner à quelqu'un les moyens de vivre, c'est la politique. Alors évidemment, tout le monde se précipite vers la politique en créant des partis qui, en fait, n'ont pas de justification démocratique, donc de participation dans le système, mais qui sont uniquement là pour permettre à ceux qui les ont créés de pouvoir accéder à des fonctions qui leur permettent d'avoir un gagne-pain et d'échapper à la misère. Alors dans ces conditions-là, vous voyez, les partis politiques comme les élections sont justement des structures qui ne correspondent absolument pas à ce qu'est la vraie démocratie. La vraie démocratie étant une culture et une mentalité avant d'être une organisation et des structures.
Alors,
donc, une structure vide et mimétique, oui.
Est-ce qu'on peut donner, alors, on peut dire que le président Mobutu avait raison de proposer un multipartisme à trois, parce que vous dites qu'on a plus de 200 partis politiques aujourd'hui qui sont des coquilles vides.
Et la démocratie n'est pas une question de structure, c'est une question de culture et de mentalité. On peut avoir même un seul parti, on peut avoir trois partis, sans qu'il y ait culture politique et mentalité démocratique, et dans ces conditions-là, ça ne fonctionnera pas non plus. N'oubliez pas que pendant toute la durée de la dictature, ici dans notre pays, on organisait des élections. N'oubliez pas que dans les pays, aujourd'hui, les pays du Maghreb, qui ont aujourd'hui remis en question la dictature, que dans ces pays-là, on a assisté à des élections soi-disant libres, transparentes et démocratiques, reconnues d'ailleurs par la communauté internationale pendant toute cette période. La démocratie n'est pas une question de structure et d'organisation, c'est une question de culture politique et de mentalité démocratique. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est d'éduquer la population à la démocratie et à la culture politique, parce qu'il n'y a pas de citoyenneté responsable sans culture, sans éducation civique et sans mentalité démocratique.
Merci Abbé Mugaruka. Monsieur Patrice Joseph Lendo, vous êtes analyste politique. Est-ce que le multipartisme a aidé les Congolais?
Est-ce que le multipartisme a aidé les Congolais? Ça pouvait aider les Congolais si, après 21 ans, si je m'en abuse, l'on s'est rendu compte, le peuple avec nous tous, que ça va. Or, il ne faudrait pas faire le micro-baladeur pour se rendre compte que ça ne va pas. C'est autant dire que si le multipartisme c'est une bonne chose d'ailleurs, eh bien, dans notre pays, le multipartisme ne produit pas des effets escomptés. Pourquoi? Parce que il y a tellement de pesanteurs négatives dans l'arène politique congolaise. Pourquoi je l'ai dit? Le multipartisme au Congo signifie la boulimie du pouvoir. Le multipartisme au Congo signifie la théâtralisation de la vie publique. Le multipartisme au Congo signifie la dépravation des mœurs politiques, alors que celle-ci devrait, une fois atteinte, booster le relan de l'espoir pour toute une nation. Et le multipartisme au Congo signifie aussi la professionnalisation de l'activisme politique. Il y a des compatriotes qui ont compris que pour être citoyen dans le tout le sens du mot, il faut à tout prix avoir un mandat politique. Et M. Labbé l'a si bien dit, comme le professeur, que ben, ici, on croit qu'il faut à tout prix créer un parti politique. Et on en a même des fondateurs de partis qui ont oublié qu'ils sont fondateurs de partis. À qui l'on rappelle que M. Labbé, fondateur de parti, vous dit « Ah bon, j'avais oublié ». Donc voilà un peu l'expression, si vous voulez, de notre multipartisme. Mais là, je pense que le problème ne saurait pas être, je dirais, compris autrement. Le problème, c'est le professeur l'a effleuré, c'est le problème par plus de l'homme et dans l'homme congolais. Il s'est une question d'éducation, mais malheureusement, on ne saurait pas avoir un multipartisme éducatif, un multipartisme positif, un multipartisme qui puisse booster le développement comme ailleurs. Dès lors que l'éducation civique et politique fait défaut dans l'homme congolais. Et là aussi, il y a un grand problème auquel on ne fait pas trop attention. Nous avons vécu toutes plusieurs décennies où, en fait, l'éducation civique et politique, qui nous était dit, le 4 octobre, c'est la date, l'anniversaire du guide. Le 28, je ne sais pas quoi, c'est la naissance de la maman. Et le 28, c'est la mort du papa ou de l'oncle du maréchal. Et voilà en fait les déficits. Et 21 ans après, aucune structure du gouvernement, je suis malheureux de le dire, n'a songé à colmater les brèches, ces déficits-là éducationnels, en termes de civisme politique, et un peuple qui n'a pas de civisme politique. Même si on le prenait, on le mettait n'importe où. Mais la conséquence, c'est ce que nous voyons, la théâtralisation de la vie politique. On vous donne des fonctions, au lieu de mettre sur vos capacités, vos talents, comme dit la Bible, ou mettre ces talents au service de la nation, vous mettez vos talents au service de vos ventres, au service de vos poches, au service de tout ce que la ville contient de cumagerie. C'est pourquoi les gens disent aujourd'hui que ben, le mal du Congo, c'est les politiciens.
Donc pour vous, le bilan est négatif.
Non, le bilan du parti ne serait pas être positif. C'est dès lors que les partis politiques ne sont que des raccourcis au bonheur. Mais M. Labbé l'a si bien dit. Tant qu'on n'aura pas favoriser le closure des talents dans les différentes fractions de la vie professionnelle. Et bien, la scène politique ne serait que ce théâtre-là où les aventuriers auront compris. Il faut prendre en otage l'élan du développement, il faut prendre en otage les aspirations du peuple, et vous verrez que tout le monde, qui qu'il soit, cherchera que c'est quelque part politicien, parce que le bonheur, on l'a appris malheureusement à tort, que le bonheur, c'est. Il faut être dans la politique pour aspirer au bonheur.
Merci, maître Patine Ndo. On va écouter certains acteurs politiques qui se sont aussi exprimés sur cette question, donc sur le bilan adressé sur le multipartisme 21 ans après.
Honorable Francis Kanombo, député élu de la ville province de Kinshasa, membre du CPRD, le multipartisme nous a permis effectivement de faire une élection et le couronnement avec l'arrivée des 9 candidats qui a permis la libéralisation et que nous puissions aller aux élections. Cela a permis à ce que le peuple congolais puisse s'exprimer et surtout les hommes politiques, ce qui n'est pas le cas, vous voyez, la Tunisie, l'Égypte aujourd'hui, tout simplement parce que les opposants étaient muselés. Par contre, en République démocratique du Congo, tout le monde peut s'exprimer. Et il y a la liberté d'expression, il y a même la liberté de la parole.
Honorable Franck Diongo, président du mouvement Lumumbiste Progressif de l'opposition radicale. Le bilan de la démocratie par rapport au multipartisme est négatif. Ça n'a pas aidé au développement du pays. On n'a pas réussi à l'amélioration de la qualité de vie des Congolais. Pendant la période de Maréchal Mobutu, on marchait à reculons. Mais on avait avancé un peu. À l'arrivée de Moïse Kabila, il va suspendre et tenir tous les partis politiques. Avec le président Kabila aujourd'hui, assautant les régimes M+4, aucune marche de l'opposition n'a été acceptée.
Professeur Bob Kabamba, brève réaction par rapport à ce que nous venons brève réaction par rapport aux déclarations de nos deux acteurs politiques que nous venons de suivre.
Merci beaucoup, madame. Et là, vous allez avoir l'expression même de ce qui ne va pas en RDC. Quand on parle de parti politique, il faut voir que le parti politique est basé sur une idéologie, sur un projet de société. C'est-à-dire qu'un parti politique, c'est en fonction de ce que l'on veut amener comme progrès, comme idée, comme rénovation, comme transformation d'une société. Il n'y a pas beaucoup d'idéologies qui peuvent arriver à transformer une société. Vous avez l'idéologie chrétienne, vous avez l'idéologie libérale, vous avez l'idéologie musulmane, l'idéologie écologique, etc., etc. Il n'y a pas sans, il n'y a pas sans idéologie pour transformer une société. De ce point de vue-là, lorsque les gens entendent se retrouver par rapport à une certaine idéologie, ils ont une certaine image, un projet par rapport à la société, à la transformation de la société qui est vive, ils peuvent à ce moment-là s'imaginer dans quel parti politique adhérer, parce que ce parti politique-là répond aux objectifs que les uns et les autres veulent défendre. Et lorsque j'entends effectivement les différents honorables qui parlent en disant, mais voilà, effectivement, par rapport à ça, je n'entends même pas par rapport à un projet, on a fait un parti politique par rapport à un projet. Mais c'était ça, en fait, même la base en fait, du pluralisme politique. Le pluralisme politique est fini par rapport, effectivement, à cette pluralité d'idéologie pour la transformation d'une société. On veut transformer le Congo d'une certaine façon. Et pour ça, on utilise une idéologie. C'est une idéologie véhiculée par un parti politique. Malheureusement, ça ne semble pas être compris par les honorables.
Alors, professeur, vous restez en ligne.
C'est fondamental qui est posé entre le parallèle qui a été fait entre les régimes Mobutu et que, par rapport aux autres régimes. Je suis vraiment désolé de vraiment contredire l'honorable. C'est que lorsque l'on parle du régime Mobutu, je pense que l'honorable devait lire beaucoup de livres qui ont été publiés sur le fonctionnement du régime Mobutu. Il faut lire le livre de professeur Bondoaré, il faut lire le livre du général Irunga, il peut lire la publication de l'honorable Mati qui va sortir plus prochainement, et le prochain livre aussi du président du Sénat qui va sortir aussi. Et là, pour se rendre compte de quoi on parle, quand on parle effectivement du régime Mobutu, on ne peut pas parler, on parle de liberté d'expression, on ne parle pas de pluralisme politique, il n'y avait pas absolument question. Quand on parle à l'époque de Moussa Mohamed Kadhafi, il n'est pas non plus question de pouvoir parler de libéralisme politique ni de pluralisme politique. Par contre, depuis 2003, depuis 2004, depuis la transition jusque maintenant, de manière très claire, je vous dis qu'aujourd'hui, il y a 383 partis politiques reconnus en RDC. Je me suis à l'époque de Mobutu, il n'y en avait pas. Pendant la transition, oui, il y en a eu pendant la transition, mais on sait bien la condition quand il s'est arrivé.
Merci.
Et quand Moussa Mohamed Kadhafi est arrivé, c'est pour ça la même chose.
Merci.
Et par rapport à ce que l'on dit tout à l'heure, par rapport à la question des manifestations politiques, je suis vu sur Radio Capi que hier, justement, l'UFS a fait une grande manifestation au stade de la CIA.
Merci, professeur Bob Kamamba, Bemugaruka. Réaction par rapport à la déclaration de nos deux députés que nous avons suivis tout à l'heure pour l'honorable Francis Kalumbo, le multipartisme a permis d'organiser les élections. Je reste à dire là, a permis la libéralisation pour aller aux élections. Et Franck Dzongo qui trouve carrément que le bilan est négatif par rapport au multipartisme.
Comme je l'ai déjà dit, les partis tels qu'ils existent en République démocratique du Congo depuis l'instauration du multipartisme sont des coquilles vides de projets de société et donc vides de débats politiques. Et quand il n'y a pas de projet de société et qu'il n'y a pas de débat politique, il n'y a pas de parti politique réel. Ce sont des partis qui sont vides aussi par rapport à la participation citoyenne. Je voudrais revenir sur ce point-là. Vous savez que comme partout dans le monde, la majorité des Congolais ne milite pas et n'évolue dans aucun parti politique. La majeure partie des Congolais et des électeurs évolue dans ce que l'on appelle la société civile organisée et non organisée. Et donc, lorsqu'on pense que c'est la vie du pays, la vie politique du pays, elle se joue au niveau des partis politiques, c'est oublier que la grande majorité des Congolais, je pourrais même dire plus de 70% des Congolais ne militent dans aucun parti politique et qu'il faudrait en tenir compte pour que, justement, le jeu politique puisse correspondre au principe fondamental de la démocratie, qui est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et donc, si la majorité de la population ne milite pas dans les partis, quels qu'en soient les nombres, ces partis sont une sorte d'illusion d'optique, parce que la démocratie, c'est la participation de la majeure partie de la population. Alors ici, je voudrais beaucoup insister, et on a vu ce qui s'est passé dans les pays du Maghreb.
Essayez de vous résumer,
oui,
monsieur Labbé.
Oui, les grandes révolutions politiques ne sont presque jamais le fait des partis politiques dans nos pays. C'est la société civile qu'on croit inexistante, qu'on croit inactive, qu'on croit absente, qui est à la base souvent des révolutions. Même ici chez nous, les grandes révolutions n'ont jamais été le fait des leaders politiques, ça a toujours été le fait de ce qu'on peut appeler la société civile. Alors, il faudra que lorsqu'on parle du multipartisme, redimensionner, relativiser l'importance même des partis politiques comme acteurs de la politique du pays et donc acteurs du développement et de l'organisation de la société, et redonner sa place première à ce que j'appelle la société civile, qui est composée des organisations telles que les églises, les syndicats, etc., les organisations professionnelles, et d'autre part, tous les autres citoyens qui, tout en appartenant pas à une organisation quelconque, font partie des forces vives de la nation.
Monsieur Labbé, on va prendre pour vous une réaction qui nous vient des États-Unis. Vous allez réagir très brièvement.
Kachama Lengulula, à Louisville, dans Kentucky, aux États-Unis. Je crois qu'après Mobutu, l'élan de la démocratie a été arrêté avec l'ère kabyliste. À ce jour, le peuple est soumis à une impuissance frustration par la force présente de la machination politicienne, qui sont secondées par les implacables rouleaux compresseurs de l'appareil d'État et des médias. Aussi, on peut parler de la démocratie lorsqu'il n'y a pas de transparence dans la gestion de la chose publique, lorsque le peuple ne peut ni se faire entendre, ni participer aux décisions de ce qui le concerne. Il y a encore un long chemin à faire, à mon avis.
Professeur Mugaruka.
Je pense que c'est très très vrai. Aujourd'hui, les politiciens ont confisqué l'espace politique et l'espace économique à leur profit égoïste et privé, et le peuple ne participe pas. Et les partis politiques, ce n'est certainement pas les partis politiques qui n'ont ni projet de succès ni débat, et qui sont des partis politiques dictatoriaux que l'on peut favoriser la participation citoyenne. Donc, je suis d'accord avec l'opinion de notre compatriote qui parle de la partie des États-Unis.
Merci, Abbé Mugaru. Maître Paty, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimayi.
Je suis Jules de Mbujimayi. Je pense que durant ces 21 ans, nous assistons à une démocratie de fait, car les partis au pouvoir ont un culte de la personnalité de leurs leaders. Ils pensent être au-dessus de tout en se permettant toute action impunie. Il y a beaucoup d'intolérance politique, l'absence de liberté d'expression et d'association.
Merci, Patrick Dindo.
Il faut aussi faire une chronologie par rapport à la réaction, je dirais ceci. Mais avant le 24 avril, il ne faut pas perdre de vue que le régime du maréchal Mobutu était constitué déjà. C'est-à-dire que c'était un régime qui était incapable de produire des outputs rencontrant les aspirations du peuple. C'est ainsi que le 24 avril 1990, où le maréchal lui-même, Dieu merci, est passé aux aveux en reconnaissant par mea culpa sa forfaiture, si vous voulez. Et de là, la chose politique devrait aller autrement. Mais malheureusement, les forces du mal ont encore survécu pour pouvoir saper tout ce qui a été dit le 24 avril, et on en est arrivé à la révolution de l'AFDL. Et là-dessus, il ne faudrait pas être trop rigoureux à l'endroit ou à l'encontre de Mouzet, parce qu'il a dit ceci: dis-moi comment tu as accédé au pouvoir, je te dirai ce que tu dois en faire. Mais Mouzet est arrivé au pouvoir par les armes, parce que tous les mécanismes citoyens mis en place pour la gestion de la République étaient devenus défaillants, et il a fallu qu'il y ait une force de là-haut. La force était venue pour balayer le régime ainsi que tout le régime contenu. Et maintenant, pour répondre à nos deux élus, je dirais ceci: il ne faut pas dire que la démocratie par rapport au multipartisme, par rapport à la participation du peuple, par rapport aux droits de l'homme, c'est encore rien, tout est rien. Non, nous reconnaissons qu'il y a quand même des avancées qui sont en train d'être posées, mais là, à ces avancées, malheureusement, comme cela a été dit par notre ami de Mbujimayi, on se rend compte qu'on est tenté de faire pratiquement des avancées à reculons. Voyez-vous ce qu'on est tenté de vivre des gestionnaires des entreprises publiques qui installent des cellules d'un parti politique, comme si on rentrait encore de plein pied à l'époque de président sectionnaire du NPR et président délégué général de telle entreprise. Ça, ce sont des attitudes qu'il faut condamner, ce sont des attitudes qu'il faut réprimer pour que les gens qui ne puissent plus se permettre de saper, si vous voulez, les avancées significatives de notre démocratie. Et je conclurai en disant ceci. Démocratie n'est pas synonyme d'élection, contrairement à ce que j'ai entendu tantôt. Et aussi, on parle de vote. Mais vous savez, nous sommes humains, nous sommes congolais, nous vivons des réalités. À quoi nous aura servi des élections si, pendant la mandature, nous avons des élus qui sont pratiquement en déphasage réel et consciencieux avec les aspirations de leur propre base. Et aussi, je dirais, qu'on a parlé de l'idéologie. Ben, il ne faut pas perdre de vue que l'idéologie ici, ce n'est qu'une question de mimétisme. On s'est dit libéraux, on s'est dit sociodémocrate, on s'est dit même chrétien-démocrate, mais dans le fait des gestes des acteurs politiques, c'est la trahison de leur propre idéologie. Donc, je pense qu'il faudrait que cela soit dit une fois pour toutes. L'idéologie ici, dans nos partis politiques, c'est une vaste escroquerie intellectuelle. Il faudrait que le peuple comprenne une chose, et c'est là où moi je suis. Voyez-vous, il faudrait que nous nous engageons à donner du contenu au peuple, pour que le peuple puisse jouer réellement son rôle de censeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Les politiques ont tout intérêt à maintenir le peuple dans cette forme d'obscurantisme civique. Et le peuple ne participe à la démocratie que par des tricots, par des bouquets de bière, par des sessions dans les moments. Et vous verrez que, je terminerai par là, maman, et bien vous verrez qu'il est dit, ventre affamé, non seulement n'a point d'oreilles, mais aussi n'a point de cerveau. Or, la démocratie, pour qu'elle soit porteuse d'espoir, il faudrait que la démocratie réponde sur un peuple qui a un cerveau.
Merci, maître Patti Lendo. Quel bilan dressé de la participation du peuple à la gestion de la chose publique. On va encore suivre deux autres acteurs politiques qui se sont exprimés à ce sujet.
Emery Okunji, député national élu de Loubefou, dans le Sankoura. Le bilan de la participation citoyenne est mitigé, si pas jusque-là négatif. Lorsque le constituant a voulu, à travers cette constitution que l'on a votée par référendum, que le peuple congolais peut manifester à tout moment son mécontentement, il informe tout simplement l'autorité compétente. Mais dans la réalité, lorsque vous osez manifester, eh bien, tout de suite là, soit que vous êtes emprisonné, soit que vous êtes dispersé brutalement. On voit les activistes de droits de l'homme être assassinés, les journalistes être emprisonnés.
Honorable Bahat Lukwebo, président du parti Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDC, de la majorité présidentielle. Le citoyen, le peuple, participe à travers ses représentants, ce sont les députés nationaux, les députés provinciaux et les sénateurs. Le seul problème, c'est l'efficacité de chaque institution, le fait que chaque institution doit jouer son travail. Là, c'est une autre paire de manches. Mais nous devons dire qu'à travers les élections libres, démocratiques et transparentes, de 2006, en tout cas, le peuple participe à la gestion.
Professeur Bob Kabamba, le peuple congolais participe-t-il effectivement à la gestion de la chose publique? Je veux vous demander d'autres
questions. Deux remarques importantes sur votre question qui est vraiment très pertinente, qui est fondamentale en sciences politiques. Donc normalement, lorsque l'on parle de représentation et de la gestion du pouvoir par le peuple, normalement, on dit, il y a plusieurs façons de pouvoir dire la démocratie, elle est effective, elle n'est pas effective. Et dans la démocratie, on dit de manière très claire, on dit que c'est la démocratie représentative, c'est-à-dire que le peuple exerce son pouvoir à travers ses élus. Ça, c'est, on va dire, grosso modo, le fondamental en termes de démocratie participative. Lorsque, effectivement, l'honorable Loubet vous parle, effectivement, de la participation citoyenne, il faut bien dire que le parlementaire a un triple rôle. Il a un rôle de fonctionnalité de produire des lois. Il a un rôle de fonctionnalité de pouvoir contrôler le gouvernement. Il a un troisième rôle qui est fondamental, qui est le rôle de représentation, de représenter le peuple. Si effectivement la participation, elle est d'une manière représentative, elle passe par l'élu. C'est-à-dire que l'élu qui doit apporter l'aspiration de la population. Et que si l'élu n'arrive pas à faire passer les aspirations de la population, il faut que ça s'applique à d'autres soucis, notamment légiférer, mais aussi interpeller. Ça veut dire qu'il doit interpeller le gouvernement et doit aussi légiférer pour que le citoyen participe de manière effective à la protection. Donc, il ne faut pas non seulement mettre la barre du côté de la population, de mon point de vue, il faut mettre la barre du côté des élus. Ce sont les élus qui représentent la population qui doivent faire passer les revendications de la population. S'ils ne le font pas, ce n'est pas la faute de la population, c'est la faute des élus.
Merci, professeur Bob Kabamba, Abbé Mugaruga. Est-ce que la population se retrouve dans cette démocratisation?
Absolument pas du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque les hommes politiques sont élus, dès qu'ils sont élus, ils s'affranchissent de leur contrat électoral et ne se préoccupent plus que des privilèges liés au pouvoir et non des intérêts de ceux qui les ont élus. Les représentants, ceux que nous appelons les représentants du peuple, en fait, une fois qu'ils sont élus, ils ne représentent plus qu'eux-mêmes. Ils ne représentent plus que leurs privilèges, ils ne représentent plus que leurs intérêts. Et comme Dieu vient de dire le professeur Kabamba, effectivement, en démocratie, lorsque un élu s'affranchit du devoir de rendre compte à sa base, il cesse de représenter cette base, il inverse la démocratie, parce qu'en démocratie, ce sont les élus, ce sont les hommes politiques qui doivent rendre compte au peuple et pas l'inverse. Et je crois qu'ici, effectivement, l'oligarchie prédatrice qui a été élue a confisqué à son profit personnel égoïste l'espace politique et économique ainsi que les richesses du pays et en fait a créé une sorte de hiatus, une sorte de clivage. Il y a comme un fossé infranchissable entre le peuple et ses élus et ses représentants qui d'ailleurs risque d'être sévèrement sanctionné aux prochaines élections à cause de cela. Le peuple ne se reconnaît pas dans ses élus qui, au lieu de s'occuper des intérêts du peuple, ne sont préoccupés que de leurs propres intérêts et souvent au mépris et au détriment de la loi et du prestige de la Constitution.
Merci, Abia Mugaraka. Est-ce que participation du peuple à la chose publique et droits de l'homme vont de pair?
Oui, c'est dans les droits de l'homme qu'on offre aussi la participation citoyenne. Mais ici, j'aimerais dire une chose pour que cela ne me soit pas à l'esprit. Croyez-vous vraiment que le peuple a élu des députés pour que ceci s'élève quand il y a Matanga pour acheter qui certaine, qui l'insère, qui je ne sais pas quoi? Je ne pense pas. Et croyez-vous aussi que le peuple a élu des députés nationaux pour qu'ils s'occupent de salons ou le long de petites avenues pour mettre qui un petit pont ici, un pont là-bas? Je ne pense pas. Mais malheureusement, c'est la destinée qui est une autre de nos élus. Ça, je suis désolé, c'est pourquoi je dis que nous devions, même la participation citoyenne du peuple, mais un peuple inculte physiquement, comment va-t-il jouir de cette participation? Comment peut-il exercer son droit à la participation citoyenne? Donc, il y a une hiatus. Il y a un déficit qu'il faut à tout prix corriger pour que cette participation-là puisse s'exalter réellement. Mais aussi, on ne le dit pas très souvent, la démocratie, disait encore l'histoire de Sully, c'est ce mode de gouvernance qui permet au sein d'un même espace sociétal donné à rehausser le niveau de vie, à rehausser, si vous voulez, l'intelligence. Mais la démocratie voudrait aussi dire participation citoyenne et droits de l'homme. C'est le droit au peuple à l'information et l'obligation des gouvernants de rendre compte au peuple. Ici, je me demande si pendant cette mandature, il y a eu interpellation, Dieu seul sait, et qu'est-ce que cette interpellation, ont-elles apporté dans la gouvernance? Dieu seul sait aussi, et je dirais, si vraiment l'action de la mandature au niveau de l'hémicycle, ça se vise à quelle apporter quelque chose dans le sens du soulagement du peuple, dans le sens de raconter les attentes du peuple. Là, vous êtes la presse, vous n'avez qu'à interroger le peuple.
Merci, on va prendre des réactions des auditeurs qui sont très nombreuses à nous être parvenues. C'est le cas de Gérard de Kinshasa. Le bilan est positif sur l'existence de plusieurs partis politiques, mais malheureusement, d'autres sont empêchés d'exercer leurs activités par le pouvoir. En plus, ces partis au pouvoir ne se soucient pas du bien-être de la population, seuls leurs intérêts comptent. Jean-François Gando de Mbandaka à l'Équateur, les ridicules mais tout en RDC, car malgré les rapports des ONG tant nationaux qu'internationaux sur les violations des droits de l'homme, notre gouvernement reste indifférent et défend les auteurs des crimes par des arguments qui découragent le peuple congolais en général. Kairi Matendera de Kalemi au Katanga du 24 avril 90 à nos jours. Nous attendons toujours le multipartisme avec le même objectif, sauver la RDC et non gagner un poste. Guillaume de Maï, Guillaume Province Orientale. Je suis très sincère aujourd'hui sur plusieurs évolutions positives de cette démocratisation de la RDC. Nous pouvons citer à titre indicatif la liberté d'expression accordée à tout Congolais actuellement, la liberté politique d'appartenir, excusez-moi, à tout mouvement politique de son choix. Et tant d'autres réalisations remarquables. Timothée de Bougne en province orientale. Durant ces années de démocratisation, on nous a démontré la volonté d'asseoir le multipartisme en RDC depuis 2006, mais elle est en train d'être bloquée par les grands désirs des reines ou soif du pouvoir. Le peuple ne participe pas à la gestion du pays. Et plus de Kinshasa, en ce qui concerne le multipartisme, nous accordons à elle satisfaite malgré la mise en marche de la démocratie par M. Kabila, car notre pays est l'un des rares pays au monde à agréer des centaines de partis politiques dont certains ont comme siège les manettes de leurs initiateurs. Professeur Bob Sabamba, nous tendons vers la fin de notre mission. Certains observateurs pensent que les politiciens ont volé les acquis de la démocratie au peuple congolais. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne pense pas que certains politiciens ont volé les acquis de la démocratisation. Puisque maintenant on est en avril, fin avril 2011, et que nous allons bientôt avoir, je l'espère, de tout cœur, des élections libres et transparentes, justement le peuple a le pouvoir de pouvoir sanctionner ces différents politiciens qu'il a élus en 2006. On peut espérer, de manière très claire, qu'au bout de 5 ans de fonctionnement des institutions, et que le peuple a vu de quoi étaient capables les uns et les autres. Je pense par la réaction de ce que vous venez de faire état des différents mails et messages que vous avez reçus de vos auditeurs, prouve à suffisance que les gens ont compris que la prochaine fois, ils ne vont pas élire n'importe qui comme député national, sénateur, ou bien même comme député provincial. Et c'est un acquis, donc il appartient au peuple congolais de pouvoir véritablement sanctionner les différents politiciens qui ont failli à leur tâche, qui ont failli à leur mission, non seulement au niveau parlementaire, mais aussi au niveau exécutif, mais aussi au niveau exécutif qui est hyper important. De ce point de vue-là, j'ai confiance à la capacité des Congolais à pouvoir discerner et à pouvoir faire le bon choix d'ici les prochaines élections pour élire d'autres hommes, et c'est ça la démocratie. On peut espérer que ça va se passer dans les meilleures conditions et avoir des véritables hommes politiques congolais qui vont donner leur bien-être à la population congolaise.
Merci, professeur Bob Kabamba. Je considère cela aussi comme votre conclusion, Abbé Mugaruka, votre conclusion par rapport au sujet débattu ce soir.
Non, il n'y a pas de démocratie sans état de droit. Un état de droit, c'est un état qui garantit, respecte et protège les droits humains fondamentaux. Et parmi ces droits-là, je vais en citer trois qui me paraissent vraiment fondamentaux et qui, malheureusement, aujourd'hui, n'ont pas encore rencontré, de la part des dirigeants, une réponse et des comportements satisfaisants. Je pense d'abord au droit à l'égalité. L'égalité de tous les citoyens devant la loi. Nul ne peut se placer au-dessus de la loi. Lorsque, ici c'est vous, quelqu'un devient, accède au pouvoir, il se croit dédouané de respecter la loi. Deux, le droit à la vie et à tout ce qui la protège et la promeut, notamment la nourriture, l'eau, une rémunération décente, le logement, la santé, l'éducation, et dans notre pays, le social est en berne, or, le pouvoir ne se justifie que par son utilité sociale. Et enfin, le droit à la justice. On ne peut pas construire des sociétés démocratiques dans la tolérance de l'impunité.
Merci, monsieur l'abbé. Bessois Patrilendo, conclusion.
Oui, le climat de la gouvernance démocratique est le respect de la loi. Néanmoins, je note qu'en dépit des avancées significatives du pouvoir actuel, il y a encore des gangsters qui se comportent pratiquement en hors la loi et aussi qui croient que leur position ou leur positionnement dans le la sphère politicienne constitue en fait une licence comportementale.
Merci.
Donc là, je dirais qu'il faut reconnaître quand même le mérite du chef de l'État qui a favorisé par un système de contradictions.
Merci, maître. Le mérite, c'est obligé de vous interrompre. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. La diffusion demain, 14h15, heure de Kinshasa, 28 de programme sur la fréquence de la paix. Thank you.